Dimanche 26 novembre 1978. Neuvième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise, rue Saint-Honoré, à Paris.
Nous allons finir un peu plus tard que d'habitude, puisque nous commençons un peu plus tard. Si une demi-heure vous paraît trop, vous me ferez signe. J'arrêterai. Je parlais tout à l'heure de la communion des saints, je continue de parler de la communion des saints. Et plus particulièrement des saints. Pour y mettre un peu d'ordre, j'ai quelques difficultés parce que il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie absolue. Je peux commencer par celui qui est le plus saint, ou plutôt celui qui est le saint par excellence, et puis descendre jusqu'au moins saint, qui est encore saint pas mal. Et puis alors, je peux me promener sur la terre. Alors là, c'est autre chose, hein. C'est une autre hiérarchie, je veux dire pourquoi. Parce que sur la terre, il se peut qu'il y ait des saints qui soient plus saints que les saints du ciel. Et cela, nous n'en savons rien. C'est plus tard qu'ils seront cela. Il se peut que parmi vous, il y ait des saints qui soient plus grands saints que la Sainte Vierge, ni que Saint Joseph, ni que les apôtres, mais que Sainte Jeanne d'Arc, ou Sainte Thérèse de Lisieux, ou Saint Christophe, à plus forte raison. Je dis ça parce que je vois devant moi quelqu'un qui m'a dit autrefois, mais Saint Christophe, qu'il convient de supprimer du calendrier, et pourtant à des plus grands saints que l'Église ait connus. C'est de la mémoire. Bon, commençons par le saint par excellence. Le saint par excellence, c'est Dieu. La Sainte Écriture nous dit qu'il est saint, un point c'est tout. Quand elle ne dit pas un point c'est tout, elle répète deux fois saint après l'avoir dit une première fois, ce qui fait trois. Sanctus, sanctus, sanctus. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure à la messe. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est saint? Cela paraît tellement évident. Ça paraît évident et presque blasphématoire parce que vous avez probablement une trop basse idée de la sainteté. La sainteté, dans votre idée, comme dans la mienne, d'ailleurs, c'est tout à fait automatique, c'est une sainteté participée. Un saint, c'est quelqu'un de très bien, c'est franchement quelqu'un de très très bien, on peut même en dire un peu plus si possible. Mais dire que Dieu est saint, cela veut dire qu'il faudrait se taire à son propos. Dieu, c'est quelqu'un qui est tout à fait à part. Voilà le sens du mot saint. C'est d'ailleurs le même sens que le mot sacré. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un ou quelque chose de sacré? C'est quelqu'un qu'on a mis à part, ou quelque chose qu'on a mis à part. Par exemple, un prêtre, on dit que c'est une personne sacrée. J'ai appris au catéchisme autrefois qu'il me fallait respecter les prêtres, non pas parce qu'ils étaient respectables en tant que monsieur un tel, mais en tant que sacré, mis à part. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est mis à part. Une chose sacrée, c'est la même chose. C'est de même. Un ciboire doit être béni par un prêtre. Un calice doit être consacré par l'évêque. Sacré, saint, c'est mis à part. Dieu est trois fois saint. Il est tout à fait à part. C'est au point que je devrais beaucoup hésiter avant d'en parler. Je ne parle de lui que par devoir, vraiment. Parce que il est tellement saint. Prononcer son nom devrait m'écorcher la bouche. Je devrais être couvert de confusion quand je parle de Dieu. Les Hébreux, puis les Juifs ensuite, qui sont les mêmes d'une certaine manière, ne prononçaient, surtout vers les derniers temps, au moment où le Christ est venu, que le moins possible le nom de Dieu. Parce que, et ils avaient raison en cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, je l'ai fait plusieurs fois depuis les quelques minutes que je vous parle. Mais ils avaient raison de prendre beaucoup de précautions. C'est ainsi, par exemple, que dans l'évangile de Saint Matthieu, qui est un bon juif, vous pouvez remarquer cela. Le nom de Dieu est rarement prononcé. Il ne l'est peut-être jamais, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait d'études exactes, statistiques, mais vous avez des expressions dans le genre de « le royaume des cieux ». Saint Luc, qui n'est pas juif, n'hésite pas. Il dit « le royaume de Dieu ». Dans Saint Matthieu également, au moment du jugement du Christ, vous voyez Caïphe qui se lève, qui déchire ses vêtements et qui dit « dis-le-nous une fois pour toutes, ne nous laisse pas languir, es-tu le Christ, le Fils du béni. Un parti pris de ne pas prononcer le nom de Dieu, car Dieu est saint. C'est d'ailleurs pourquoi, à l'Église, et plus on s'approche du Saint des Saints, il faut se tenir comme à l'écart. Tout à l'heure, en faisant avancer les petits-enfants pour la première communion, j'ai eu un moment d'hésitation. Et je me suis dit, pour une fois. Et je l'ai fait. Mais ça m'embêtait. Ça m'embêtait parce que Dieu est saint. Il est tout à fait à part. Les autres saints, par exemple la Sainte Vierge, qui est la plus grande parmi les saints, comment sont-ils saints ? Par participation. Ils sont saints parce qu'ils se sont mis à part du côté de Dieu. Ils se sont séparés de tout ce qui est terrestre pour être du côté de Dieu le plus possible. Et plus on est saint, plus on est de Dieu, plus on est à part, plus on est éloigné du monde dans lequel on vit d'ailleurs. La Sainte Vierge a vécu dans le monde. Les gens la bousculaient quand elle se trouvait dans une foule. Ils la bousculaient, mais s'ils avaient su, ils n'auraient pas osé la toucher. Il y a des ignorances que Dieu permet. Si nous savions ce qu'il est, lui Dieu, si nous savons ce qu'est la sainteté de Marie, nous n'oserions pas leur parler. Mais Dieu désire que nous lui parlions et que nous lui parlions, c'est-à-dire à elle. Alors, il permet que vous ne compreniez pas ce que je dis, et il permet que je ne comprenne pas trop ce que je dis moi-même. Je suis de ces prédicateurs qui ne comprennent pas ce qu'ils disent quand ils parlent. Donc les saints sont saints par participation. Alors commençons par la Sainte Vierge, qui est la plus sainte. La Sainte Vierge, eh bien, elle est comme tous les saints, elle possède Dieu, mais elle le possède de façon éminente dans le ciel. Vous savez que les saints du ciel ne sont pas égaux. Je l'ai dit tout clairement tout à l'heure. Il y a des saints qui sont plus grands que d'autres. Il y a toute une hiérarchie. Et vous pourriez vous poser la question que se posait la petite Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse Martin. Comment peut-on être heureux quand on sait que les autres le sont davantage? Ça, c'est très terrestre comme réflexion. Vous savez, dans notre pays, vous le savez bien, chacun est libre, tout le monde est égaux, et nous vivons une société fraternelle. Liberté, égalité, fraternité. Dans le ciel, c'est la liberté la plus totale et la plus vraie. C'est la vraie fraternité également. Il n'y en a pas de plus vraie que celle-là. Mais ce n'est pas l'égalité. Il y a des saints qui sont plus saints que d'autres, plus heureux, qui possèdent Dieu plus pleinement. Et voilà, je suis sur la voie de l'explication. Vous savez que Thérèse Martin avait des éducatrices hors de pair dans la personne de ses sœurs. Et il y en avait une qui avait un penchant à l'originalité, c'est l'aînée, Marie. Je me demande si ce n'est pas elle qui trouva cette explication pour faire comprendre à sa petite sœur comment ça se passe au ciel. Elle lui vit apporter un grand verre, un petit verre, un autre plus petit et un dé à coudre. Et elle lui dit « Remplis tout cela d'eau ». Et quand cela fut fait, elle lui dit « Lequel de ces récipients est plus plein que l'autre ?» L'enfant fut obligé de reconnaître qu'ils étaient tous aussi pleins. Eh bien voilà la sainteté dans le ciel. Voilà l'inégalité et voilà la plénitude. Les saints du ciel, ce sont des récipients plus ou moins volumineux, plus ou moins contenants, n'est-ce pas ? Plus ou moins récipients, autrement dit. Mais ils sont tous pleins. Pleins absolument. Autrement dit, ils n'en veulent pas plus. N'allez pas croire d'ailleurs que ces gens-là s'embêtent. Parce que quand on prend les comparaisons sur la Terre, c'est évident, on est un peu déçu. Vous aurez certainement beaucoup de mal à vous considérer dans l'éternité semblable à des dés à coudre. C'est pas drôle d'être un dé à coudre. Hein? Ni même un verre à liqueur, le plus gai. Mais ce n'est pas beau non plus. Les saints du ciel ne s'ennuient pas parce qu'ils possèdent Dieu et ne l'épuisent jamais. Tout d'abord, ce n'est pas n'est pas une sainteté immobile, comme le dit à coudre le verre à liqueur. Vous savez, c'est posé là sur la table. On évite de bouger la table pour ne pas répandre le liquide. Les saints du ciel boivent à long trait. Je vais dire une bêtise. À longueur d'éternité. À longueur d'éternité. Et plus ils boivent, plus ils ont soif. Il y a dans l'écriture deux phrases qui disent le contraire. Mais vous savez, quand il s'agit de Dieu, les contraires se rejoignent. Vous connaissez une de ces phrases. Elle est dans l'Évangile. Jésus dit à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Et quelque part dans l'Ancien Testament, je ne sais plus quel prophète, qui parle d'eau également, dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Vous savez, l'ennui dans cette vie qui est la nôtre, c'est que nous sommes très rapidement contents de ce qui nous est présenté. Je puis avoir très 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 soif. J'ai marché longtemps, c'est l'été, il fait chaud, il n'y avait pas de source. Et au bout de 3 heures, j'en découvre une. C'est délicieux, vous savez, surtout si la source est fraîche. Mais au bout de 50 secondes, c'est fini. Il n'y a rien de plus délicieux qu'une eau fraîche quand on a très soif. Mais encore une fois, au bout de 50 secondes, c'est fini. Au ciel, c'est différent. Je bois parce que j'ai soif. J'ai soif parce que j'ai bu. Je bois donc puisque j'ai soif. Et j'ai encore plus soif. Mais je bois encore plus et je n'en finis pas. Autrement dit, il ne s'ennuie pas. Seulement, tout est chez ces gens-là une différence de débit. Une différence de débit. Il y a ceux qui boivent de toute leur force, mais de toute leur petite force. Et puis alors, il y a la Sainte Vierge qui est une très grande buveuse. Très grande buveuse. Et plus elle boit, plus elle a soif. Et plus elle a soif, plus elle boit. Voilà donc pour la Sainte Vierge, pour Saint Joseph, pour les saints apôtres, et pour tant d'autres saints, dont on ne peut pas fixer la hiérarchie. Il y a Sainte Thérèse de Lisieux, dont un autre saint a dit qu'elle est la plus grande sainte des temps modernes. Mais les temps modernes, ce sont des temps parmi d'autres, après d'autres, avant d'autres, je ne sais pas. Bref, je m'y perds un petit peu. Voilà pour les saints du ciel. Les saints du ciel, d'ailleurs, qui ne sont pas indifférents à nous, ils ont beau être occupés de Dieu, ils ne se désintéressent pas de notre sort. C'est encore un mystère, cela. En ce monde, nous ne faisons qu'une chose à la fois, dans l'autre aussi, d'ailleurs. Mais en Dieu, il y a tout. Et nous sommes comprises en Dieu, en ce Dieu dont s'occupent uniquement les saints. Voyez-vous que je rejoins le dogme de la communion des saints. Ces saints du ciel s'intéressent à moi, je dois m'intéresser à eux. C'est un devoir et c'est mon intérêt. C'est tout à fait mon intérêt. Je pourrais appeler ça une bêtise, mais ce n'est pas une. J'ai appris récemment que ce n'était pas une bêtise. Quelquefois, je me posais la question suivante. Est-il bien nécessaire de prier pour mon père, pour ma mère, pour mon frère qui sont morts ou pour d'autres, alors que peut-être ils sont depuis longtemps dans le paradis? Je perds mes prières et mes énergies dans une histoire pareille. Je me disais cela. Alors, je m'en tirais d'une façon un peu compliquée, un peu trop compliquée. Rien n'est compliqué en Dieu. Je me disais, elles ne sont pas perdues, ces prières, si elles ne vont pas à ceux pour qui je prie, elles retomberont sur d'autres. C'est vrai, mais il y a plus simple que cela. Plus simple que cela. Vous savez, ces espèces d'oppositions, les saints s'occupent de Dieu, les saints s'occupent de nous, sont des oppositions apparentes, n'est-ce pas? C'est encore Sainte Thérèse de Lisieux qui m'éclaire. Et vous savez, on pourrait penser qu'elle se trompe. Mais soyez tranquilles, quand vous lisez les écrits des saints, dites-vous que d'autres sont passés avant vous qui les ont épluchés avec des intentions perverses. Dans un procès de canonisation, il y a un bonhomme qu'on appelle vulgairement l'avocat du diable qui est chargé de prendre le candidat ou la candidate en faute. Autrement dit, si on n'a pas trouvé de faute dans ce que je vais vous dire, c'est que c'est vrai. Ou que ça peut être vrai. Ce n'est pas contre la foi. Elle dit que je prie pour les gens, même si je suis à peu près certain qu'ils sont au ciel, ben, tout simplement parce que ça leur fait plaisir. De toute façon, s'ils sont au ciel, ça augmente leur gloire. Un petit peu comme un petit enfant à qui on fait un compliment. Vous savez, un petit enfant à qui on fait un compliment. Vous le voyez tout à coup se gonfler comme la grenouille de la fable. C'est physique. Un petit enfant qui a fait quelque chose de bien, vous lui dites « Oh, c'est bien ce que tu as fait là ». Immédiatement, la poitrine se développe, le visage s'épanouit, on voit un beau sourire. Eh bien, les saints sont même cela. Ils sont simples comme des enfants. Vous priez pour eux, pour leur salut, pour leur bien, ça leur fait du bien. N'est-ce pas suffisant pour calmer nos inquiétudes? C'est suffisant. C'est suffisant. Et comme ils sont reconnaissants, eh bien, ils nous le rendent. Autrement dit, vous n'y perdrez pas. Priez pour eux, et vous n'y perdrez pas. Et puis les autres aussi, qui sont au purgatoire, auxquels je vais cesser de penser, n'y perdront pas non plus. Voilà pour les saints du ciel. Passons aux âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes. Ceci est de foi. Au moment où mon âme quittera mon corps, j'en aurai terminé avec les mérites et les démérites. Autrement dit, ils sont tout à fait, et heureusement d'ailleurs, ces gens du purgatoire, à la merci de Dieu. Et aussi à notre merci, mais c'est moins heureux, c'est moins prometteur. Ils sont à la merci de Dieu, ils sont à notre merci. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en pensant aux enfants à qui je m'adressais, qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire parce que ce sont les mendiants de l'au-delà. Ils ne dépendent que de nous, d'une certaine manière. Je mets Dieu à part, il est sacré, il est tellement saint. Ils ne dépendent que de nous. Et c'est pourquoi il faut prier pour les âmes du purgatoire. Elles peuvent prier pour nous et nous obtenir des grâces. C'est un échange. Elles ne méritent plus pour elles-mêmes, elles ne déméritent plus pour elles-mêmes. C'est une consolation, vous savez, de savoir que si nous allons en purgatoire, nous ne pourrons plus offenser Dieu. C'est une petite consolation. Elles peuvent prier pour nous. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Nous en parlerons plus tard, mais j'en dis un mot tout de suite. Et un mot qui est une opinion personnelle. Quand je vous donne mes opinions personnelles, je le signale. Mais quand on fera mon procès de canonisation, je suppose qu'en épluchant ce que je dis, on n'y verra rien contre la foi. On me parlait il y a quelques années d'une religieuse fondatrice d'ordre, d'un ordre local, qui avait laissé par testament une somme d'argent pour subvenir aux premiers frais de sa béatification. J'ai envie de faire des économies. Je ne sais plus ce que je disais avec ça. Je parlais de ce que je pense du purgatoire. Je pense que le purgatoire, c'est l'état que vous connaissez peut-être, l'état de ceux qui ne croient pas encore assez en la miséricorde de Dieu. Qui se figurent pouvoir acquérir et recevoir quelque chose par eux-mêmes, par leur propre force. Vous allez me dire, mais si elles vous écoutent en ce moment, les voilà renseignées. Elles feront ce qu'elles doivent. Elles diront, mon Dieu, j'ai toute confiance en vous, je ne veux rien, je suis sale, nettoyez-moi, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Si j'attends d'être moi-même toute purifiée, je puis attendre l'éternité. Elles m'écoutent, bien sûr, mais vous savez, il y a deux manières de comprendre. Parce que si je parle d'elle en ce moment, de ces âmes, je pense aussi à vous. Il y a parmi vous des gens qui se figurent pouvoir prendre le ciel d'assaut. J'espère que ces gens-là iront au ciel, mais je suis bien convaincu qu'ils feront un petit séjour en purgatoire. Il y a des choses qu'on comprend là. Il faut que j'ajoute quelque chose au geste puisqu'on enregistre. Il y a des choses que l'on comprend avec son gingin. Et puis, il y a d'autres choses que l'on comprend dans sa peau. C'est un peu étrange ce que je dis. Je me demande comment les âmes du purgatoire feront leur compte pour comprendre les choses dans leur peau. Qu'ils n'ont plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance vitale. Ce que je vous raconte là, je ne l'ai pas vu au purgatoire, je l'ai vu sur la terre. Mais c'est ce qui m'a donné cette idée. Alors quelqu'un m'a aidé à avoir l'idée. Il faut que je sois juste. Quand j'étais au grand séminaire, j'écoutais une partie de ce qu'on me disait. Et à une des retraites du début d'année, c'était sérieux à l'époque, un des sulpiciens qui prêchait nous a parlé du purgatoire et nous a dit, ça m'est resté là, et là, le purgatoire, c'est le remords. Et le remords, en effet, c'est l'état de ceux qui ne croient pas dans leur peau à la miséricorde de Dieu. Ceux qui ont suivi mon catéchisme chez les scouts connaissent ma comparaison à ce propos. Je raconte l'histoire de ces petits garçons et ces petites filles qui devaient recevoir, ça dépend des jours, quelquefois je parle de la reine d'Angleterre, quelquefois je parle de Mme Fischer d'Estaing. Je vais parler de la reine d'Angleterre. Alors tout ce monde-là est réuni là, dans un château, c'est un beau matin d'été, et la reine d'Angleterre est en retard comme tous les gens qui n'ont rien à faire. Alors évidemment, les petits enfants sont très difficiles à tenir. Moi, je vais tenir plus d'une demi-heure, si je continue. Finalement, on leur permet d'aller jouer dans le parc en leur disant surtout ne vous salissez pas, vous pensez. Une demi-heure plus tard, la reine s'annonce, on fait revenir les enfants, alors il y a évidemment les petites filles, surtout, qui sont restées très sages, qui sont toutes propres, toutes belles, de la dentelle partout. Alors on les fait entrer directement dans le salon. C'est le ciel. Et puis alors il y a les irréparables, hein, surtout les petits garçons. Tout ça, des bols, des bleus, des pantalons troués. Alors on les renvoie à la maison. C'est l'enfer. Il y a ceux avec qui, dont on pourra tirer quelque chose quand même. Alors on les fait passer à la salle de bain. Alors là, on les peigne, on les nettoie, on les arrange, etc. Ça prend un peu de temps. C'est le purgatoire. Et puis, il y a celle qui a compris. Et celle qui a compris parce qu'elle a encore, je pense, à Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux disait qu'elle ne pensait pas qu'elle serait de purgatoire. Elle n'était pas prétentieuse en cela, et elle disait, le bon Dieu ne peut pas faire ça, me faire cela, parce que j'ai trop confiance en lui. C'est pour faire comprendre ce qu'elle disait tout à l'heure. Mais je n'arrive pas à me mettre dans son état d'âme, ça viendra peut-être. Alors la petite fille qui est dans le lavabo trouve que c'est un peu long pour faire la queue. Alors elle se dit, la reine d'Angleterre passe pour être très bonne. Elle ne regardera pas de si près à tout ça. La voilà qui quitte les bonnes femmes, qui traverse le vestibule, qui se précipite dans le salon et qui va se blottir dans les bras de la reine. Et la reine, que c'est à elle. Elle embrasse, elle l'appelle, elle la nettoie avec sa salive, elle la range, c'est fait. Alors voilà le purgatoire. Alors nous allons prier à partir de ce jour pour les âmes du purgatoire de façon à ce qu'elles comprennent bien ce que je viens de vous dire. Plutôt de façon à ce que Dieu leur donne la grâce, parce que c'est une grâce, de comprendre cela. Et elles entreront. Et elles nous le rendront. Il me reste à parler des saints de la terre que nous sommes. Alors nous prendrons la hiérarchie inverse. Là tout de suite, j'ai commencé par Dieu, et puis ensuite, en passant par la Sainte Vierge, je suis arrivé aux âmes du purgatoire qui sont de saintes âmes. Et sur la terre, je vais commencer par ce qu'il y a de plus minable. Ceux dont on peut à peine dire qu'ils sont des saints. C'est-à-dire les baptisés, qui ne sont pas en état de grâce. Ils sont des saints, comme je le disais tout à l'heure, de façon toute extérieure, parce qu'ils ont reçu le saint baptême, et qu'ils ont fréquenté de temps en temps, et continuent de fréquenter le saint sacrement. Bref, ils sont saints de façon toute extérieure, mais sont des membres morts. Ce courant de vie, qui s'appelle la communion des saints, ils l'ignorent, ils sont en dehors, tout à fait. Hein. Dieu, dans sa miséricorde, les regarde de temps en temps et les fait profiter de ce vaste courant. Leur accorde une grâce de conversion. à laquelle ils n'ont pas droit strictement, tandis que les autres ont droit à tout. Si nous sommes en état de grâce, nous avons un droit strict. Nous pouvons réclamer si cela ne vient pas. Parce que nous sommes les membres de Jésus. Un droit strict. Ce qu'on appelle le mérite. Hein? Alors parmi les saints de la terre, il y a ceux qui sont en état de grâce, et puis il y a ceux qui sont les saints, proprement dit, ceux que l'on canonisera un jour, ou qu'on ne canonisera pas peut-être, mais qui sont tout de même des âmes franchement très distinctes. Je dis qu'on ne les canonisera peut-être pas, parce que, ça encore c'est une idée personnelle, mais je la partage très fortement, je ne suis pas sûr que les plus saints soient forcément canonisés. On canonise les saints, Dieu permet que les saints soient canonisés, à mon avis, non pas forcément parce qu'ils sont plus saints, ça peut être, hein, mais parce qu'ils ont une valeur d'exemple. Si je me trompe, il faudrait croire que les Italiens sont plus saints que les Français, parce qu'il y a plus de saints canonisés en Italie qu'ailleurs, et que les Français sont plus saints que les Espagnols, puisqu'il n'y a plus de Français, et que les Espagnols sont plus saints que les Anglais, qui, eux, franchement, n'ont pas grand monde, hein, parmi les canonisés. Il est vrai que il peut y avoir d'autres raisons. Il s'agit des Anglais. Je vais me faire revoir quand j'arriverai là-haut, parce qu'il y a tout de même un certain nombre de ces Anglais que j'aime bien et que j'ai le toupet de prier de temps en temps. Mais ça vient que je plaisante. Hein? Ce que je veux dire, c'est que Dieu permet la canonisation de certains à cause de leur valeur d'exemple. Mais il peut y avoir, je crois, plus saint, et qui n'est pas canonisé. Vous savez, de ces gens parfaitement inconnus qui ont une vie tellement ordinaire et que les montrer en exemple ne frapperait les imaginations de personne. Je ne sais pas, c'est une idée qui vient de cela. Alors disons ce qu'est cette sainteté. Ça nous intéresse parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous appelés. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous pourriez croire que la sainteté, c'est une absence de péché. Ça ne suffit pas. Désolé, mais ça ne suffit pas. Sainte Thérèse de Lisieux nous dit qu'elle ne se rappelle pas avoir jamais offensé Dieu de toute sa vie. Et pourtant, elle nous dit s'être convertie à 13 ans. Donc jusqu'à 13 ans, elle ne péchait pas, mais n'était pas une sainte. Je prends cela strictement. Donc ça n'est pas suffisant. Je vais vous dire une chose, j'entends des confidences professionnelles, je connais des personnes qui ne pêche presque pas. Presque rien. C'est peut-être parce que ces gens-là ont été très protégés, qu'ils ont un tempérament très équilibré, etc. Mais ça existe, je vous garantis que ça existe. Et je sais fort bien aussi que ces personnes ne sont pas des saintes. Elles sont peu tentées, elles n'ont pas eu d'occasion, je ne sais pas, elles ont été gardées. Et elles, parce qu'il s'agit de personnes, mais il y a des hommes aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est quelque chose de plus radical. Vous vous rappelez comment Sainte Thérèse de Lisieux s'est convertie? Elle était trop sensible, un rien la faisait pleurer, et puis une belle nuit de Noël, elle s'est sentie la force de ne plus pleurer pour un rien. C'est cela qu'elle appelle sa conversion. Et cela nous explique ce qu'est la sainteté. La sainteté, c'est une manière de retourner à la justice originelle d'avant le péché. L'homme a été créé pour Dieu. Le péché originel, ça a été une façon de se mettre à la place de Dieu. Et quand on est saint, eh bien on se perd de vue complètement. On se reprend à ne plus voir que Dieu. Alors on est plus sensible aux petites méchancetés que les autres vous font. On n'en fait plus un drame. Qu'on est plus important. Il n'y a plus que Dieu qui compte. Voilà la sainteté. Mais c'est une grâce, hein. C'est un peu comme, c'est même tout à fait comme la grâce qui fait sortir les âmes du purgatoire, précisément. Une demi-heure.